On connaît tous cette sensation, pas vrai? Le fameux lundi matin.
Oh oui, le réveil qui sonne et la semaine qui se dresse devant nous comme une montagne.
C'est exactement ça. Et si la meilleure façon de réveiller quelqu'un ce jour-là, c'était pas de lui hurler dans les oreilles avec de la musique pop survoltée?
Tu veux dire, contrairement à 99% des matinales radio?
Ouais, exactement. D'habitude, l'approche des médias pour le lundi matin, c'est l'injection forcée de bonne humeur. On nous bombarde de rires préenregistrés, de jingles super explosifs, tu sais, ces trucs à 120 battements par minute.
Complètement. Tout ça en espérant que cette énergie artificielle va, par magie, effacer la fatigue du week-end.
Sauf que, ben, ça marche pas toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire une plongée profonde dans un document qui prend l'exact contre-pied de cette philosophie.
D'accord. Décortiquons un peu cela.
Je suis prête. Qu'est-ce qu'on a au menu?
Alors, on a mis la main sur quelque chose de vraiment unique. Il s'agit du script radiophonique complet, incluant les notes de réalisation, d'une émission diffusée aujourd'hui même, ce lundi 18 mai 2026,
Ah, tout frais donc. Et sur quelle station?
sur la station Radio Tem Tam Africa.
Et l'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, notre mission en fait, ça va être de comprendre comment ce texte manipule le rythme sonore et la spiritualité pour transformer cette lourdeur du lundi en une véritable force.
C'est un sacré programme.
Ouais. C'est un peu comme si le lundi matin était ce vieux bouton de redémarrage sur un ordinateur, tu vois. Le genre de bouton tout rouillé qu'on a vraiment du mal à enclencher.
C'est une super analogie. Et ce qui rend ce document immédiatement captivant, ce qui est fascinant ici, c'est le contraste frappant avec l'identité même de la station.
C'est-à-dire?
Ben, si on regarde la fin du script qu'on a sous les yeux, le slogan officiel de Radio Tam Tam Africa est rappelé en toutes lettres, c'est le pouvoir des faits.
Ah ouais, le pouvoir des faits. Ça sonne très, très journalisme d'investigation.
Exactement. Historiquement, une station qui martèle une telle devise, elle construit sa grille autour de l'information dure, de la géopolitique, des enquêtes. On s'attend forcément à une matinale purement rationnelle.
C'est clair. On veut les infos du jour, la météo, le trafic, et basta.
Voilà. Or, ce segment très spécifique, qui est présenté par une voix nommée Félicité Amanyara Vincent, eh ben, il abandonne totalement cette factualité. Il plonge directement dans l'immatériel.
Ouais, j'ai vu ça. Le texte parle ouvertement de l'âme, des doutes intérieurs.
De la foi, même. C'est un pas de côté éditorial qui est vraiment majeur pour une station de ce type.
C'est presque une anomalie dans le paysage radiophonique, en fait. Comment une station dédiée aux faits peut justifier une telle parenthèse spirituelle?
C'est une excellente question.
J'ai l'impression que la clé, elle se trouve dans la manière dont le texte définit son sujet dès le départ. Il traite pas le lundi comme un simple jour du calendrier.
Non, il le traite comme un vrai phénomène psychologique.
Ouais, c'est ça. Le script parle d'un, je cite, recommencement, d'une montée difficile, et il utilise même l'expression bataille silencieuse, avec ses blessures invisibles et ses inquiétudes. On est à des années-lumière du classique Allez, debout tout le monde, on sourit.
Et heureusement d'ailleurs, tu sais, la psychologie moderne qualifie ce que font la plupart des matinales de positivité toxique.
Ah, la fameuse positivité toxique. Tu peux expliquer rapidement pour ceux qui écoutent?
Bien sûr. En gros, quand le cerveau d'un individu est épuisé par la charge mentale de la semaine qui l'attend, entendre un animateur hurler que la vie est merveilleuse, ça déclenche un mécanisme de défense.
On se braque en fait.
C'est ça. Le cerveau perçoit cette injonction au bonheur comme une dissonance cognitive. C'est perçu comme un mensonge et du coup, il se ferme.
D'accord.
Ce que fait ce script, au contraire, ça relève de l'acceptation radicale.
L'acceptation radicale. Donc valider qu'on est fatigué, tout simplement.
Exactement. En nommant la difficulté, en reconnaissant que l'esprit doute et que le cœur hésite, comme c'est écrit dans le texte, eh bien, on désarme les défenses de l'auditeur. On crée un espace sécurisant où il est socialement et même intimement acceptable d'être au bout du rouleau.
Et ce qui est fou, c'est que cette acceptation, elle passe pas seulement par le choix des mots, elle est littéralement encodée dans la réalisation sonore.
Ouais que oui, les notes de réalisation sont
Ouais, les
incroyables.
notes du réalisateur, qui est juste identifiées par les initiales G-V, elles sont fascinantes. Il exige une baisse du volume global à moins 25%.
Moins 25% à la radio, c'est une chute énorme.
C'est clair. Et en plus, il demande l'insertion d'un piano doux, de ce qu'il appelle des nappes spirituelles. Et surtout, écoute bien ça, il impose des silences.
Des vrais silences.
Ouais. Il y a des indications dans le script pour des pauses de 2, voire 3 secondes. Attends, 3 secondes de silence total à la radio, c'est considéré comme une erreur technique majeure en temps normal.
C'est le cauchemar de tout réalisateur, le fameux blanc à l'antenne.
N'importe quel gars dans sa voiture va instinctivement taper sur son autoradio pour vérifier si le Bluetooth s'est pas déconnecté, quoi. C'est pas un risque énorme de perdre l'audience de faire ça.
Alors, ça ressemble à un risque, mais c'est hyper calculé. Ça repose sur une mécanique neurobiologique très précise qu'on appelle l'effet de tension, ou le lean-in effect en anglais.
Le lean-in effect, donc le fait de se pencher en avant pour écouter?
Voilà. Pense à l'auditeur matinal type. Il est généralement en pilote automatique, non?
Ouais, complètement dans le brouillard avec son café.
Son cerveau filtre le bruit de fond pendant qu'il conduit dans les embouteillages. Mais lorsqu'il y a un blanc de 3 secondes à l'antenne, le cerveau reptilien détecte une anomalie dans son environnement.
Ah, une rupture de pattern.
Exactement. L'auditeur sort instantanément de sa léthargie. Il prête activement attention à ce qui va suivre parce que son cerveau lui dit « Hey, il y a un truc bizarre, écoute !» Ce vide sonore, c'est pas une erreur, c'est un aspirateur à concentration.
C'est brillant. Et juste après ce vide, quand la voix de Félicité reprend, les notes précisent qu'elle doit être, je cite, « lente, grave, habitée ».
Ce qui n'est pas un hasard non plus. Une voix basse fréquence, ça agit directement sur le système parasympathique. Ça réduit le niveau de cortisol, l'hormone du stress.
Donc on force littéralement le corps de l'auditeur à ralentir, juste par les ondes sonores.
C'est une vraie manipulation sensorielle, hein. On attire l'attention par le vide. Et on apaise par la fréquence vocale.
Mais du coup, une fois que l'auditeur a baissé la garde, que cette lourdeur du lundi est reconnue, comment le script reconstruit l'énergie? Parce que on peut pas laisser les gens dans cet état de léthargie pour aller bosser, tu vois?
Non, bien sûr que non. Il faut bien les remettre sur pied.
Et c'est là que le texte opère sa première grande transition. Il glisse vers une structure de prière chrétienne extrêmement codifié.
Tout à fait. Et avant d'aller plus loin là-dessus, c'est important de faire une petite pause pour préciser quelque chose.
Oui, vas-y.
Pour tous ceux qui nous écoutent, on tient à rappeler qu'on n'adopte aucune position religieuse ou théologique ici, hein.
Exactement. Aucune affiliation.
On analyse purement les choix rhétoriques et le contenu textuel qui nous est fourni par ce document de Radio Tam Tam Africa. On décortique la mécanique.
C'est très juste de le rappeler. Mais même en l'analysant de manière froide, que l'on soit un croyant fervent ou un athée farouche, faut admettre que la mécanique psychologique de cette prière est redoutable.
Absolument. Le texte s'adresse directement à un dieu de miséricorde. Et il suit une progression très classique qui se termine par la fameuse formule trinitaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ouais, les codes sont tous là.
Mais au-delà du dogme, la structure même de cette invocation sert de rampe de lancement cognitif.
Comment ça?
Eh bien, elle commence par la gratitude la plus basique qui soit, remercier pour le souffle de vie et la lumière du matin. Ça crée un ancrage immédiat dans le présent.
On se concentre sur le fait qu'on est en vie, tout simplement.
Voilà. Ensuite, on passe à une demande de purification mentale, apaiser les pensées. Et enfin, et c'est là le coup de génie, la prière pivote vers l'extérieur.
Vers des actions concrètes.
Exactement, des actions somatiques et sociales.
Ouais, on s'éloigne très vite du côté mystique pour entrer dans le pragmatisme du bureau, en fait. Le texte demande l'aide pour recommencer sans haine, travailler sans découragement et aimer sans peur.
C'est une vraie feuille de route pour la journée.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a un passage précis glissé au milieu de cette prière qui m'a scotché.
Lequel?
La présentatrice demande une protection pour ceux qui souffrent en silence. Et elle ajoute cette phrase « Nous te prions pour ceux qui n'ont plus la force de prier ».
Ah oui, ce passage est très fort.
C'est un concept incroyable, non? C'est un peu comme le principe du conducteur désigné en fin de soirée.
Le fameux Sam.
Voilà. Quand t'es trop épuisé intellectuellement ou émotionnellement pour formuler une pensée positive ou une intention pour ta propre journée, eh ben, l'émission prend les clés de la voiture.
C'est exactement ça.
Elle te dit, en substance, installe-toi sur le siège passager, repose-toi, on gère la prière et la motivation pour toi. C'est comme une batterie de secours.
Cette analogie de la batterie de secours illustre parfaitement ce qu'on appelle la délégation de la charge spirituelle.
La délégation de la charge spirituelle. C'est intéressant.
Oui, parce que la fatigue décisionnelle d'un lundi matin, elle est écrasante. Devoir générer sa propre motivation interne, trouver l'énergie de voir le bon côté des choses, ça demande des ressources cognitives que beaucoup de gens n'ont tout simplement pas à 6 ou 7 heures du matin.
C'est sûr que le lundi matin à l'aube, le réservoir est souvent vide.
En déclarant « nous prions pour ceux qui n'ont plus la force », le texte soulage littéralement l'auditeur de l'obligation de performer sa propre résilience. Le locuteur se substitue à la personne défaillante.
C'est un vrai transfert de poids, en fait.
Totalement. La voix grave et habitée porte la personne qui écoute jusqu'à ce que ses propres batteries soient rechargées.
Et tu imagines le lien de loyauté que ça crée entre l'auditeur et la station? On se sent vu, on se sent soutenu dans nos fameuses batailles silencieuses.
C'est de la fidélisation par l'empathie pure.
Du coup, la prière s'achève sur un « Amen ». Logiquement, on se dit « Bon, l'exercice spirituel est terminé, le contrat est rempli ».
Sauf que le script s'arrête pas là.
Sauf que, ouais, il nous réserve une surprise de taille. Il enchaîne sans pub sur une section intitulée « Méditation-signature ». Et là, les notes de réalisation demandent à la voix de changer du tout au tout.
Elle doit devenir, selon les notes, douce et enveloppante.
C'est ça. Le registre vocal change, mais le registre philosophique aussi, non?
C'est un changement radical. Le chant lexical abandonne complètement la supplique religieuse. Fini le Dieu de miséricorde. Là, on embrasse totalement le vocabulaire de la pleine conscience et du développement personnel.
Le texte affirme qu'on ne peut pas réécrire hier, mais qu'on peut transformer aujourd'hui.
On déplace complètement le focus. On passe de l'immuabilité du passé à l'actionnabilité du présent.
Mais attends, il n'y a pas une énorme contradiction là-dedans?
Qu'est-ce qui te chiffonne?
On vient de passer 3 bonnes minutes à dire en gros « Mon Dieu, je suis trop faible, prends le volant, donne-moi la force ». Et soudain, bam, sans transition, la présentatrice envoie une série de mantras ultra-affirmatifs.
Les fameux choisir.
Ouais. Choisir la paix. Choisir la discipline. Choisir la vérité. On passe d'une reddition totale, genre « je ne peux plus rien faire », à un contrôle absolu. C'est pas un plus brutal pour quelqu'un qui écoute son autoradio?
Ça a l'air brutal, oui. Mais ce grand écart apparent, c'est en réalité une manipulation magistrale de ce que la psychologie nomme le locus de contrôle.
Le locus de contrôle?
Oui. C'est l'endroit où un individu situe la source des événements de sa vie.
Est-ce que ça vient de moi ou de l'extérieur, en gros?
Exactement. Dans la première partie, la prière, le script place intentionnellement ce locus à l'extérieur. On s'en remet à une entité supérieure parce que notre jauge d'énergie est à zéro. C'est nécessaire pour pouvoir se reposer un instant.
D'accord.
Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas affronter une semaine de travail en restant dans un état de passivité. On ne peut pas juste attendre que les solutions tombent du ciel.
C'est clair, le boss va pas accepter l'excuse.
Voilà. Donc, cette section de méditation effectue un transfert chirurgical. Elle ramène brutalement le locus de contrôle à l'intérieur de l'individu.
D'où la répétition de l'action de choisir.
Le verbe « choisir », répété 3 fois de suite de manière anaphorique, ça agit comme un électrochoc. C'est comme si l'émission disait « Bon, on a porté le fardeau pour vous pendant 5 minutes, maintenant vous avez repris votre souffle, c'est à vous d'agir. »
C'est votre responsabilité de choisir la discipline. C'est fascinant. C'est vraiment une transition de la béquille vers le tremplin.
Une très belle image, oui.
Et ce tremplin, il culmine sur une phrase écrite en lettres capitales dans les notes de réalisation. Avec l'instruction stricte d'être lu d'une voix affirmée,
le fameux slogan
« La parole est une force ». L'idée que le texte avance ici, c'est que chaque mot qu'on prononce transporte une véritable énergie. Et là, on n'est plus du tout dans la métaphore religieuse, on est dans la pure PNL, la programmation neurolinguistique, non ?
Complètement. Le message sous-jacent, c'est que la façon dont on va formuler nos phrases tout au long de ce lundi va littéralement dicter la réalité de notre semaine.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Que les mots créent la réalité.
Eh bien, la linguistique cognitive confirme cette prémisse, en tout cas. Les mots que nous employons pour décrire notre réalité ne font pas que la refléter, ils la construisent.
C'est-à-dire que si je passe ma matinée à me plaindre, mon cerveau va suivre.
Exactement. Si un individu commence sa journée en verbalisant constamment des plaintes, son cerveau va sécréter des hormones liées au stress pour correspondre à cette réalité sémantique qu'il est en train de créer.
C'est dingue.
Et à l'inverse, choisir un vocabulaire lié à la paix ou à la vérité, ça reconfigure littéralement le filtre de perception du cerveau.
Donc en plaçant ce slogan « La parole est une force » à la toute fin du segment, Radio Tom Tam Africa fournit un outil de survie hyper pragmatique.
C'est une ancre mentale. Une ancre que l'auditeur peut ramener avec lui dans ses réunions de boulot ou dans les conflits qu'il va devoir gérer dans la journée.
Ce qui soulève une autre question sur la stratégie globale de la station. En fouillant un peu, on a trouvé la description du podcast destiné à la plateforme Mixcloud pour cette émission.
Et que dit cette description?
Elle vend l'émission comme un, je cite, « moment spirituel unique mêlant prière, méditation et inspiration ». Il y a clairement une volonté de ratisser super large.
Oui, on sent l'ambition de toucher différents publics.
Comment ce mélange des genres, prière et développement personnel, fonctionne-t-il concrètement pour capter des audiences qui ont des croyances potentiellement très opposées?
Si nous relions cela à une perspective plus large, l'architecture du segment est vraiment pensée pour opérer sur plusieurs niveaux de réception.
C'est-à-dire un message à double fond.
En quelque sorte. Prends un auditeur strictement croyant, disons de confession chrétienne. Il va trouver une satisfaction profonde dans la première moitié du texte.
Logique, il lui retrouve les codes de son culte.
Voilà, la structure d'invocation, la demande de miséricorde, le Amen, il s'y sentira ancré et respecté. Mais la force du texte, c'est que cet ancrage ne s'arrête pas là.
Parce qu'il faut aussi garder l'auditeur qui n'est pas du tout religieux.
C'est ça. L'auditeur laïque, agnostique ou même celui qui se méfie viscéralement des institutions religieuses, il ne sera pas aliéné sur la durée.
Pourquoi ? À cause de la deuxième partie ?
Absolument. La seconde moitié du script traduit toute cette ferveur en concept laïque et universel. La grâce divine devient la pleine conscience, la foi devient la discipline.
Ah, je vois. En superposant ces deux lexiques, la réalisation crée une sorte de rituel hybride.
Elle offre le confort de la tradition aux uns et l'empouvoirment psychologique, l'empowerment aux autres. C'est très astucieux.
C'est fascinant de voir comment un simple script radio peut jouer sur autant de tableaux à la fois. Si on résume la trajectoire de ce document, c'est une véritable masterclass d'empathie structurée.
Le terme est bien choisi.
Ça commence par détruire l'injonction au bonheur immédiat, par un silence délibéré et une validation de la douleur. Ensuite, ça allège la charge mentale en prêtant une voix à ceux qui sont trop fatigués pour chercher de la force eux-mêmes.
Le fameux conducteur désigné.
C'est ça. Et ça se termine par un transfert de responsabilité strict en rappelant que nos mots sont nos propres outils de construction ou de destruction. C'est vraiment de l'ingénierie de l'humeur d'une précision chirurgicale, avec le rythme, le volume, la sémantique, tout est pensé.
Et la maîtrise de cette ingénierie textuelle, elle nous pousse d'ailleurs vers une réflexion beaucoup plus vaste pour conclure.
Vas-y, je t'écoute.
Ce document martèle avec raison que l'expression verbale, ce grand « la parole est une force », c'est le moteur qui transforme notre énergie en réalité palpable.
Ouais, les mots créent le monde.
Mais cela soulève une question importante. Si chaque mot prononcé sculpte activement notre journée, la mécanique inverse mérite vraiment qu'on s'y attarde. Qu'en est-il du poids de ce que nous refusons de formuler ?
Et veut dire par rapport au silence imposé par le réalisateur au tout début de l'émission ?
Pas seulement les silences radiophoniques, non. Je parle des silences existentiels qui sont évoqués dans le texte. Si on repense aux blessures invisibles et aux batailles silencieuses qui rongent l'auditeur avant même que le soleil se lève.
Ah, je vois où tu veux en venir.
Le script te propose de les apaiser par la prière, puis de les combattre par des mots choisis avec une grande discipline. Mais dans quelle mesure ces mots que nous gardons captifs, tu sais, ces frustrations professionnelles ou ces épuisements personnels qu'on n'ose pas verbaliser un lundi matin ?
Parce qu'on veut pas faire de vagues ou qu'on est juste trop fatigué ?
Exactement. Dans quelle mesure ces choses qu'on tait façonnent-elles en creux la véritable texture de notre semaine ? Si la parole est une force qui construit, le non-dit n'est-il pas une force gravitationnelle, silencieuse, mais implacable, qui maintient ce fameux bouton de redémarrage perpétuellement coincé.
Ouf, c'est une pensée vertigineuse.
C'est le paradoxe final de ce texte. Il nous donne les clés pour parler avec sagesse, tout en reconnaissant que notre plus grand défi, finalement, ça reste de survivre à ce que nous taisons.
Une réflexion puissante à garder en tête pour notre propre début de semaine. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi et merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir plongé dans ces notes avec nous. À la prochaine!